Et ici avec Francis Valéry pour parler un peu de l'exposition sur l'histoire de la science-fiction. Donc n'hésitez pas, si à un moment vous avez des questions, à lever la main et puis on vous passera le micro pour que vous posiez votre question. Donc Francis, ton exposition tu l'as basée sur quoi pourquoi tu as voulu faire cette exposition tout d'abord?
Parce qu'on m'a demandé.
Tout simplement.
On m'a demandé de faire une exposition qui présenterait la science-fiction comme ça, de manière un petit survol sur l'histoire de la science-fiction, un petit peu simple, avec des illustrations. Donc on a fait un petit... Vous l'avez vu l'expo? Ouais, vous avez été la voir? Pas encore. On a fait, dans une première partie, on parle de Jules Verne, parce qu'il était né à Nantes, Jules Verne. Donc on parle de lui, de ce qu'il a écrit, les voyages extraordinaires, le voyage au centre de la Terre, sur la Lune, le tour du monde, enfin tout ça. Et puis après, il y a une partie de l'exposition où vous avez vu ou vous verrez, qui est une histoire un petit peu de la science-fiction depuis ce qu'on a appelé les précurseurs, les origines, donc des écrivains auxquels on ne pense pas, souvent très anciens, qui ont écrit des histoires de voyages sur la Lune, vers Mars et tout ça. Après les écrivains américains, après les écrivains des années 50, 60, jusqu'aux écrivains d'aujourd'hui. Il y a un panneau sur les écrivains français, parce qu'il y a pas mal d'écrivains en France qui font de la science-fiction aussi plutôt bien. À Nantes, vous avez Pierre Bordage, qui habite Nantes, vous le connaissez, Pierre, je pense, on le voit beaucoup. C'est un auteur intéressant de science-fiction. Et puis dans l'expo, je crois qu'on a mis aussi un panneau où on présente un peu les personnages qu'on voit souvent dans la science-fiction, les héros, les robots, les extraterrestres, il y a un panneau là-dessus. Et puis, je crois que les derniers panneaux, c'est... parce que là, je parlais de science-fiction qu'on lit, hein, de livres de science-fiction, de littérature de science-fiction. Et les derniers panneaux, ça montre que la science-fiction, c'est aussi... Il y a des bandes dessinées, il y a du cinéma, il y a des séries télé... Ah, je suis sûr que vous en connaissez plein. Au cinéma, vous en connaissez plein. Vous avez vu Avatar, par exemple, je pense. Hein, des films comme ça, voilà. Donc l'expo, elle présente ça de manière simple et gentille.
Bah, du coup, c'est quoi la science-fiction?
Je sais pas, moi. Attends, si tu commences à poser des questions comme ça, alors que je suis un petit peu en train de digérer, là, ça va être compliqué. La science-fiction, je peux même pas vous dire la science-fiction, c'est de la littérature, etc., puisque je viens de vous expliquer que c'est aussi de la bande dessinée, et c'est aussi des films, et c'est aussi des séries télé. Alors, c'est pas que des livres, donc je vais essayer de dire des choses pas trop compliquées quand même. Les gens qui font de la science-fiction, que ça soit sous forme de livres pour les enfants, pour les adolescents, ou que ça soit faire des films ou des BD, c'est des gens déjà qui ont une espèce d'état d'esprit. Hein. Le point commun à ces gens-là, c'est qu'ils ont une espèce d'état d'esprit où ils ont envie un petit peu de réfléchir à peut-être comment sera le monde demain, comment on vivra, ce qu'on fera, ce qu'on mangera, donc, comment seront les maisons, qu'est-ce qu'on fera comme travail, comme profession, est-ce que les extraterrestres vont arriver. Enfin, c'est un petit peu ça que raconte la science-fiction. Alors c'est difficile à définir et à dire la science-fiction c'est, puis tac 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 tac, une super définition géniale, ça moi je sais pas faire, mais en même temps personne n'y est trop arrivé jusqu'à présent, donc c'est pas très grave que moi j'y arrive pas non plus. On peut plutôt dire la définir par une espèce de catalogue des thèmes dont elle traite, hein, les voyages dans le temps, les voyages dans d'autres planètes, comme je viens de vous expliquer, les réflexions sur les progrès de la science, les progrès de la technique, tout ça, c'est sûr que ça va changer notre mode de vie. Par exemple, quand j'avais votre âge, et même quand j'étais bien grand, il n'y a pas si longtemps que ça, ça n'existait pas les téléphones portables, par exemple. Ça n'existait pas Internet, ça n'existait pas les jeux vidéo, tout ça, ça n'existait pas. Et même quand j'avais votre âge, la télé, il y avait une seule chaîne, elle était en noir et blanc. Elle n'était même pas en couleur. Ce qui fait que quand elle était petite, une fois, ma fille, quand elle avait votre âge à peu près, puis qu'à la télé, il y avait une émission ancienne qui passait en noir et blanc. Un jour, elle m'a demandé, mais le monde avant, il était en noir et blanc. Quand est-ce qu'on a inventé les couleurs? Et c'était rigolo. Et je lui ai dit, non, mais le monde, il a toujours été en couleur. C'est juste la télévision qui était... À l'époque, on ne savait pas reproduire sur un écran de télévision les couleurs. On ne savait pas faire. Ah, vous vous rendez compte, un monde où il n'y a pas Internet, où il n'y a pas, pas de téléphone portable, où il n'y a pas, pas de Pokémon, où, c'est, ben, on était quand même dans ce monde-là, puis on faisait avec. Voilà. Pourquoi je raconte ça? C'était, ça répond à ta question?
Bah, ça répond comme on tu peut. Disais que personne n'arrivait à répondre à une question comme qu'est-ce que la science-fiction, mais je crois qu'on a une question par ici. Toc. Bah, viens par là plutôt, parce que ça va être plus facile.
Attends, le monsieur va t'amener un micro où il n'y a pas de fil, non? On se débrouille comme ça. Bon, on peut se débrouiller.
Mais c'est
quoi
avec, les utopiales, enfin, bon. Pourquoi ça s'appelle comme ça?
Les utopiales.
Pourquoi ça s'appelle les utopiales? Alors, je sais pas, c'est pas moi qui ai choisi que ça s'appelle les utopiales, mais je pense que c'est parce que dans utopiales, il y a le mot utopie. Ça fait référence aux utopies. Et l'utopie, c'est un genre littéraire, comme on dit. Tu vois, c'est une des racines de ce qu'aujourd'hui on appelle la science-fiction. Et une de ces racines, dans le temps, il y a plusieurs siècles, c'était l'utopie. C'était les utopistes, c'était des écrivains qui écrivaient des livres où ils essayaient de montrer un monde où les choses se passaient mieux que dans le monde d'aujourd'hui. Si tu veux, ils essayaient d'imaginer comment on pourrait organiser différemment la société, par exemple, pour que les gens soient plus heureux. Tu vois. Et ce genre d'écrit, où des écrivains réfléchissaient à ça, ben, on appelait ça des utopies. Tu vois. C'est un mot ancien, voilà, pour expliquer rapidement, sans trop compliquer.
Pourquoi on met une image comme ça?
Alors, cette image-là, c'est l'affiche de cette année. Tous les ans, aux Utopiales, il y a une affiche, tu vois, qui annonce, qui est collée partout dans la ville, je pense, qu'on voit un petit peu partout. Et cette année, l'affiche, elle représente, elle correspond à l'exposition qui est au-dessus, qui est une exposition qui vient de Nouvelle-Zélande, qui a été en Suisse l'an dernier, dans le musée suisse où je travaille, et puis qui maintenant s'est retrouvé à Nantes. Alors c'est pour ça qu'il y a ça dessiné sur l'affiche. Maintenant, pourquoi il y a une affiche? Ben, parce qu'il faut bien qu'il y ait une affiche. Et pourquoi ils l'ont mise là? Parce qu'en fait, depuis le début, apparemment, il y a cette affiche en permanence qui est projetée sur... je pense qu'on aurait pu mettre ma photo, par exemple, tu vois. Ça aurait peut-être... Mais bon, ils ont décidé de mettre ça. Bon, tu vois. Voilà.
Oui, mais... Ça vient d'une BD ou d'un film?
Ah, alors je crois que ça vient d'une BD, mais c'est aussi une exposition. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans la bande dessinée, les personnages, les vaisseaux spatiaux, les armes, tout ça, ça a été fabriqué comme des objets pour s'amuser, tu vois, comme dans un jeu de rôle. C'est ces objets-là qui sont là-haut. Mais il y a aussi une BD. Alors je ne sais pas s'ils ont d'abord fait tout cet univers et qu'ils en ont fait une BD, ou si c'est une BD et qu'ensuite ils ont décidé de donner vie, de construire en 3D les éléments de la BD, ça je sais pas, je me suis pas posé la question en fait. Tu sais pas?
Je sais pas.
Mais vous pourrez vous demanderez, le monsieur qui a créé tout ça, il est là, Greg, hein, c'est un monsieur, il n'a pas de cheveux, mais il a une grosse barbe, et puis il est gentil comme tout, vous verrez, il est sympa. Il parle pas français, ce qui fait qu'on lui dit des trucs, puis il répond yes, yes, on fait semblant qu'on a compris, puis tout le monde est content comme ça, c'est bien. En fait, dans la classe, c'est toi qui parles le plus dans la classe. Je suis sûr, toi, t'es devant, au premier rang, les autres, ils sont tous contre les radiateurs, collés comme ça, puis ils attendent. Non? Bon, ça va alors. Je t'ai coupé. Y a pas quelqu'un d'autre qui veut demander quelque chose, le temps qu'il retrouve sa question? Si, tu l'as retrouvé.
Pourquoi on a inventé la science-fiction?
Pouh. Ah. Vous savez qu'on a mis... Il n'y avait pas deux jokers, on avait dit qu'il y avait... que je pouvais sortir de... Pourquoi on a inventé la science-fiction? Écoute, je crois qu'on a toujours... Je crois que les hommes, les femmes, les êtres humains, je crois qu'on a toujours eu envie de se... On s'est toujours interrogé sur comment le monde pourrait être s'il n'était pas comme il est, quoi, en gros, tu vois, ce qu'on aurait pu faire de différent, et comment le monde comment il sera dans le futur. Je crois qu'il y a toujours eu des gens pour se poser ce genre de questions, tu vois. C'est dans la nature de l'homme de se dire que son regard va jusqu'au bout de l'horizon, comme ça, et puis plus loin que l'horizon, doit sûrement y avoir. Alors on y va, on va voir, on marche, tu vois, puis on pense que on est toujours à se dire que l'herbe doit être plus verte, que ça doit être plus beau ailleurs. Alors quand on a un peu beaucoup marché, on arrête de marcher, on n'y va plus, on se contente de penser, tu vois. On imagine, je crois que c'est dans notre nature de toujours s'interroger. Alors, est-ce qu'on a raison de faire ça? Est-ce qu'on ferait mieux de rester chez soi peinard, de regarder, tu vois, puis d'arrêter de se poser des questions tordues? Moi, je trouve que c'est bien de se poser ce genre de questions. Donc, on appelle ça science-fiction, mais on peut appeler ça autrement, tu vois. On ne l'a pas vraiment inventé, la science-fiction. C'est dans notre nature d'être humain, de se poser des questions, d'interroger, d'essayer de comprendre, tu vois, tout ce qui nous entoure, l'univers, de se dire comment ça marche. Comment ça, tu vois, c'est notre truc à nous, les humains. Les animaux, ils font pas trop ça. Ils ont quand même moins de problèmes. On les mange, hein. C'est aussi un gros problème, ça. Nous, on nous mange pas. Mais bon.
Pour revenir à l'exposition.
Ah, on fait fuir les adultes en plus, c'est super. Ça prouve qu'on est bon puisqu'on fait fuir les adultes.
Et alors, pour revenir à l'exposition, le.
Il y en a qui arrivent, est-ce qu'ils vont s'arrêter? Quelqu'un peut mettre une barrière là? Oui.
Pour revenir à l'exposition, tu parlais de Jules Verne et de précurseurs. Du coup, la science-fiction pour toi, ça commence quand? Ça
commence pas. Ça commence pas. C'est une étiquette, science-fiction. Le mot apparaît. Enfin. C'est à la fin des années 20 aux États-Unis que quelqu'un a commencé à utiliser le mot scientifiction, on disait science fiction en anglais quand on prend un accent un peu pour faire le malin. Et je crois que c'est 1929, le mot science-fiction apparaît pour la première fois. C'est un monsieur qui s'appelait Hugo Gernsback, qui est luxembourgeois, qui était une espèce de petit cousin de. La sœur de mon arrière-grand-mère, enfin une histoire comme ça. Au Luxembourg, on est tous cousins, c'est tellement petit. Et il était parti aux États-Unis comme ça. Et puis c'est lui le premier qui a édité une revue. Et dans cette revue, il a publié plein de textes comme ça, des petites histoires. Et puis dessus, il a mis science-fiction. C'est lui qui a un petit peu inventé le mot parce qu'il pensait que fiction, ça veut dire que c'est des écrits, c'est des nouvelles, de la littérature. Et puis c'était sur la science, hein, puisque c'était sur le progrès, sur le futur. Alors c'est lui qui a créé ce mot-là. Donc on peut dire que la science-fiction, elle existe depuis qu'un jour quelqu'un a inventé le mot. Mais ce qu'elle recouvre, c'est-à-dire cette volonté de poser des questions, de s'interroger, d'imaginer la vie sur les autres planètes, d'imaginer le futur, toutes ces choses-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a toujours existé. Alors, à quand ça remonte soit on a un petit côté intégriste et on dit la science-fiction, on ne peut pas en parler tant que... On peut pas la faire remonter avant qu'elle ait été officiellement inventée. On va dire les années 20 aux États-Unis. On peut être un petit peu moins intégriste et dire qu'en Europe, dès la seconde moitié du 19e siècle, il y avait quand même énormément d'écrivains qui faisaient exactement la même littérature, sauf qu'on lui avait encore pas donné de nom. Donc c'est des précurseurs de la science-fiction, c'en est plus ou moins. Et puis on peut remonter un petit peu encore jusqu'à des auteurs européens, beaucoup français du 19e, de fin du 18e, mais bon, après, ça me semble difficile de... On trouve dans la littérature très ancienne, chez les Grecs, même avant, on trouve des éléments qui, avec le recul, nous apparaissent à nous maintenant comme des éléments qui annonçaient un petit peu la science-fiction, mais c'est pas de la science-fiction pour autant, faut pas non plus trop... Ou alors, dès qu'il y a des hommes de Néandertal qui tapent sur des... Ils prennent une pierre ou un bâton, puis ils tapent sur un je sais pas quoi, puis on dit, ouais, c'est des précurseurs du rock'n'roll. Enfin, moi, je veux bien, mais il faut pas trop non plus, tu vois.
Mais du coup, ça va poser la question, si on remonte comme ça, en fait, du rapport entre la mythologie et l'imaginaire qu'on peut développer dans les récits de science-fiction.
Bon, je pense que la science-fiction est... Et une formidable machine à fabriquer des mythes, ouais, c'est une mythologie moderne. Il n'y a pas de souci. Mais là, je pense qu'on est peut-être un peu au-dessus de ce qu'on peut de dire qui vous intéresse, qui vous soit profitable. Enfin, quoi, de toute façon, je pense qu'être là plutôt qu'être à l'école, c'est déjà profitable en soi. C'est plus sympa, non? Ou vous auriez préféré être à l'école? Non? Vous préférez être à l'école? Ouais? Non? Et vous êtes venu avec vos profs, là, au fait, ou pas? Ah, bah ouais, c'est pour ça qu'il y en a pas deux au fond de la classe qui hurlent et qui sont venus me donner des coups de bâton. Les profs sont pas là, bah c'est cool. Bah vous êtes quoi, vous deux, alors? Ah, les bénévoles qui accompagnent les enfants. très bien. Je le disais, oui, dans l'éducation nationale, il ne s'habille pas comme ça, quand même. Ça m'étonnait un petit peu. Vous êtes dans l'éducation nationale, vous ? Non ? Ça va. Toi non plus ? Non, mais toi, je sais, je te connais depuis tellement longtemps. Toi, c'est... Ah, t'es universitaire, toi, quand même. Non ? Juste ton copain. T'es à moitié pardonné, alors.
Et alors, cette science-fiction, à la base, qui est plutôt de la littérature, elle se développe donc dans le cinéma, dans ouais. la bande dessinée, comme on l'a vu dans de l'art tout simplement visuel, pictural, des peintures, des sculptures. Cette transition, enfin, pas cette transition, est-ce qu'il y a toujours eu ce côté où la science-fiction émanait dans tous les arts, ou est-ce que ça a d'abord été dans la littérature la base, puis après on a fait du cinéma et quelle est la grande différence en fait, par exemple, entre un récit de un livre de science-fiction et un film de science-fiction, par exemple?
Bah déjà, le livre, si tu veux, tu vas l'acheter dans une librairie, alors que le film, tu le vois au cinéma ou en DVD. Donc, mais je t'expliquerai après. Non, je vais remonter à ta question qui est au départ, la science-fiction, c'est de la littérature, incontestablement. Ça devient de la bande dessinée vers 1929, avec les toutes premières bandes dessinées de science-fiction aux États-Unis. Flash Gordon, Brick Bradford, et encore avant, j'ai oublié. Mais donc à la fin des années 20, en même temps qu'au cinéma d'ailleurs, hein, avec les premiers films au tout début du siècle. Et puis ça devient des séries télé en 1949, avec la première série télé de SF qui s'appelle Captain Video, qui n'est jamais passée en France, mais... Disons, pendant toute la décennie, pendant toutes les années 50, jusqu'à l'arrivée de la quatrième dimension, Twilight Zone, en 1959. Entre 49 et 59, il y a, je crois, 25 ou 26 séries aux États-Unis qui apparaissent et qui posent les bases des séries télé de SF. Donc ça, c'est les années 50. L'âge d'or du cinéma de SF, c'est aussi les années 50. Hein. Rien que sur cette décennie, il y a 10 ou 15 ou 20 films. Enfin, il y a un nombre de films par an assez hallucinant. Et un sur deux sont quasiment devenus des super classiques. Dans les années 50, en fait, le grand tournant, c'est les années 50. Hein. Dans les années 50, la science-fiction qui s'exprimait dans la BD, le cinéma, etc., devient une espèce de principe, comme un virus, une espèce de principe contagieux qui contamine le réel. C'est-à-dire que les gens qui construisent des voitures, la General Motors, par exemple, ils font des Cadillacs. En 59, les Cadillacs, c'est des grosses voitures américaines énormes. Derrière, elles ont des grands ailerons qui partent en arrière, et de chaque côté de l'aileron, il y a deux réacteurs de fusée. Mais vraiment, hein, alors c'est pas des réacteurs de fusée, c'est pour faire joli. Mais les Cadillacs de 59, en particulier les Cadillacs Eldorado, enfin toutes ces cadres, elles ont ces énormes, on appelle ça des tail fins, hein, c'est-à-dire des ailerons de requin, je crois. Enfin, fins, c'est les ailes. Enfin, la queue en forme de, enfin bref. Donc ça, c'est en 59. Et ces voitures, on en voit encore passer. C'est vrai que c'est un vaisseau spatial sur roues, quoi. C'est, voilà. Et il y a les grandes expositions universelles aussi. En 1958-59, à Bruxelles, il y a eu ce qu'on appelle une grande exposition universelle, c'est-à-dire chaque pays construisait un pavillon comme ça pour montrer ce qu'il était capable de faire de chez lui. Chaque pays se faisait voir ce qu'il avait de mieux. Et en 1958-59, à Bruxelles, le symbole de l'exposition, c'était comme un immense atome de métal. On l'appelle l'atomion, c'est une sculpture. Et l'état d'esprit, c'était complètement comme de la science-fiction. Dans le monde de l'industrie, on s'est mis à fabriquer des objets. Moi, chez moi, j'ai une espèce de vieux radiateur qui est des années 50, de marque Congo, d'ailleurs, qui ressemble à une espèce de truc de... C'est un objet de science-fiction, enfin, c'est complètement... Ouais. Et donc, c'est à cette période-là que la science-fiction se retrouve partout. C'est plus seulement des livres ou des BD ou des films. C'est aussi un espèce... Alors, nous, on utilise le mot, on dit, c'est une esthétique. Ça veut dire que plein de choses se mettent à ressembler à des objets de science-fiction. Hein, tous les créateurs, les gens construisent des immeubles, construisent des voitures, construisent des objets de la vie de tous les jours, qui ont un petit côté SF, quoi, qui ont un petit look, comme on dit, qui évoque la science-fiction. Ça, c'est vraiment les années 50. C'est la grande conquête de l'imaginaire sur le réel. Et c'est pareil, c'est des concepts un petit peu compliqués à comprendre, je pense. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu ce que je vous dis, je ne suis pas sûr. Si, c'est juste, c'est pas simple. Hein. Il est bien, hein, il essaie de faire les trucs hyper sérieux. Dès que je commence à dire des choses bizarres, il me dit oui, alors pour en revenir à votre exposition, cher monsieur Valéry, considère. Alors si jamais tu me demandes la différence entre la science-fiction et le fantastique, je te préviens, je pose le micro, je quitte la salle. Et ce n'est pas une menace en l'air.
On a une question, je suis là.
Maintenant, si tu la poses, Patrice Véry, ici présent, grand connaisseur, est tout à fait prêt à y répondre. Ça t'apprendra à rigoler bêtement.
Donc, vas-y. L'exposition, elle se compose comment ?
Bah, je viens de le dire.
Tu viens de le dire.
Il m'a pas écouté.
Ah bah si.
Trois panneaux Jules Verne, une dizaine de panneaux sur l'histoire chronologique de la science-fiction, avec un final sur la science-fiction française. Dans cette deuxième partie, un panneau sur les principaux personnages qu'on voit, hein, c'est un mec un petit peu rigolo, un panneau sur les principaux genres, puis à la fin, une série de, je crois, trois panneaux, un sur la BD, un sur le cinéma, et un sur... Tu suis pas.
La littérature française ?
Non, pas la littérature française, mais c'est pas croyable. Série télé.
Ah oui, les séries télé.
Ah là là. Mais ils m'ont fait un prix, hein, je l'ai eu pas cher. Non, il est gentil. En fait, personne ne voulait venir avec moi parler comme ça, parce qu'ils se sont dit, il est fou ce mec. Il était le seul à bien vouloir. Pour ça, il est gentil. Pas de gentil. Je t'écoute.
Tu m'aimes. Ah. On a une question, en fait.
Dans l'expo ou en règle générale ? D'accord. Alors, les magazines, bon, on va parler des magazines états-uniens, aux États-Unis, puisque c'est essentiellement là qu'ils sont. Donc, en 1926, il y a le premier qui sort, qui s'appelle Amazing Stories. C'est des mensuels, en général. Hein. Et le type qui fait ça, donc Hugo Gernsback, il en crée 3, 4, 5 dans les années qui suivent. Ce qui fait que quand on arrive en 1930, où apparaît un grand, grand magazine qui s'appelle... qui est là-haut, d'ailleurs, qui s'appelle Astounding Stories. Il y en a, doit y en avoir 5, 6 ou 7 en circulation. Tout au long des années 30 jusqu'en 42-43, il ne se passe pas énormément de choses. Il s'en crée pas mal de nouveaux dans les années 40, des magazines grand format, ce qui fait que quand on arrive, je pense, vers 1950, doit y en avoir 35 ou 40 qui existent et qui sont quasiment tous mensuels. Certains sont seulement trimestriels. Et puis après, bah, ça descend. Après, ça descend doucement. Donc c'est vrai qu'aux États-Unis, à l'époque où il y avait le plus de magazines de science-fiction, il devait y en avoir à peu près 40 chaque mois qu'on pouvait lire. Et je me souviens d'avoir lu une anecdote un jour dans une revue où un fan interviewait un écrivain de science-fiction et lui demandait « Mais est-ce que vous lisez chaque mois tous les magazines qui paraissent ?» Et le type disait non, il disait « Mais vous pensez qu'il y a des gens qui lisent tout ce qui paraît ?» Et l'écrivain a répondu « Peut-être, mais dans ce cas, il doit avoir vraiment du mal à dissimuler les caisses de magazines sous le lit de l'hôpital psychiatrique dans lequel ils sont enfermés. » Par contre, en France, le premier magazine est sorti en 53. C'est la revue Fiction. Enfin... En l'espace de sur deux, trois mois, il y a trois magazines qui apparaissent en même temps, un mois près. Il y a Fiction, Galaxy, qui sont deux éditions françaises de magazines américains. Et il y a une revue qui s'appelle Science Fiction Magazine, qui n'est pas datée. Les premiers numéros ne sont pas datés. Et du coup, il y a une querelle. On ne sait pas trop exactement qui est la première. Si on extrapole, ça serait Science Fiction Magazine la première et 15 jours après Fiction. Enfin bon, à la limite, on s'en moque un peu. Il y a ces trois magazines, science-fiction magazine dure très peu de temps, 4 numéros, et Fiction et Galaxy, par contre, ont traversé les années 50, Galaxy s'est arrêté un moment, a repris dans les années 60, s'est arrêté un moment, a été ressuscité par des gens à Nancy, Et Fiction s'est arrêté un moment, a été ressuscité par aussi une équipe sur Lyon. Donc actuellement, Galaxy, je ne sais pas si ça existe encore, tu sais peut-être, le Galaxy dans C1, oui, ça a l'air d'exister. Et puis le Fiction qui est fait à Lyon aussi, c'est nos deux revues françaises principales, on va dire. Je pense qu'il en existe d'autres moins connues que je ne connais pas.
Bifrost.
Et Bifrost, pardon. Ouh là là. Bon, ils ne m'ont pas entendu. Hein. J'ai publié plein de choses dans Bifrost, mais il ne faut pas le dire. Ouh là, vous dites pas, hein, parce que là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de Bifrosteux, là. Bon, c'est bon. Sortez. Non, t'as dit fantasy. C'est un peu moins vicieux, mais... Alors, si tu veux, la science-fiction, tu sors de ton vaisseau spatial, t'as un super pistolet désintégrateur, tu tires sur tout ce qui bouge, ok ? La fantasy, tu descends de ton dragon apprivoisé, après qu'il ait replié ses ailes, tu sors ta super grande épée et tu coupes toutes les têtes qui bougent. Ok ? Ce qui fait que c'est... Alors, il y en a un qui lève, qui vient venir me frapper. Non, il s'en va juste. C'est bon. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont des super fans de science-fiction, qui détestent la fantasy en expliquant que c'est n'importe quoi et que c'est toujours pareil et que ça n'a aucun intérêt. Et puis, tu as des gens qui lisent que de la fantasy, qui expliquent que de toute façon, la science-fiction, c'est nul. Et d'abord, ils n'y comprennent rien. Alors ça, c'est ceux qui ajoutent ceux qui aiment la science-fiction. Et ce qui fait qu'il y a des gens comme ça qui s'étripent, parce que c'est dans leur nature d'avoir envie de s'étriper. Tu as des gens comme moi qui s'en foutent. Et puis, tu as des gens, je pense, assez raisonnables, qui disent que dans la science-fiction, il y a des trucs bien, puis il y a plein de trucs qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Puis que dans la fantasy, il y a plein de trucs qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, mais peut-être qu'il y a quand même aussi des trucs bien. Alors ça, c'est la version plutôt amateur de SF. Mais je suis persuadé que... j'ai un peu un principe que j'applique dans la vie, un peu à tout, à toutes les formes d'expression, d'art, de culture, etc. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. C'est que 90% de n'importe quoi est de la M, trois petits points, mais que c'est pas grave puisqu'il reste 10%. Il suffit de trouver ces 10%-là. Donc je suis intimement persuadé que la fantasy a son lot de chefs-d'œuvre indiscutables, au même titre que la science-fiction, au même titre que n'importe quelle littérature. Voilà. La différence, je caricature un peu, mais c'est ça. Je pense que dans la fantasy, on a des mondes. Ça peut se passer sur d'autres planètes, ça peut se passer dans le futur, c'est pas le problème, mais c'est plutôt des mondes où il y a de la magie, où il y a des créatures un peu étranges, qu'on trouve aussi dans la science-fiction, hein, sur d'autres planètes. La science-fiction est peut-être plus sur la science, la technologie, je sais pas, mais je pense que les deux ont un fond commun. Enfin, on trouve des livres de science-fiction dans lesquels il y a des magiciens et des livres de fantasy dans lesquels il y a des vaisseaux spatiaux qui passent. Enfin, je pense que c'est un petit peu... Il y a sûrement une fantasy excessive... ultra, comme on dit, enfin bon, qui bannit tout ce qui n'est pas de la pure magie. Puis il y a aussi une SF pure et dure. Si c'est pas de la science, c'est forcément sans intérêt. Mais les gens qui font ce genre de littérature et qui, bon, ils ont le droit de la faire. Mais voilà, de là à penser qu'il y a noir et blanc, il y a bien et pas bien, c'est stupide. Enfin, bon, c'est mon point de vue. Hein, mais bon, on va pas les empêcher de se battre non plus. Ça peut être rigolo, en même temps, ça peut être marrant. Des fois, quand on les voit s'étriper dans les débats, « Non, monsieur, pas du tout, c'est de la fantaisie. Pas du tout, mon cher ami. » C'est assez rigolo, quoi. Mais moi, maintenant, je pense. Il y a quelques années, c'était sûr qu'aucun lecteur ou écrivain de fantaisie s'aventurait dans une convention de science-fiction. Il n'en sortait pas vivant. Mais je pense que maintenant, c'est... voilà, ça va. Les gens ont pris un peu de plomb dans la tête, sans doute. Ils s'en sortent blessés seulement maintenant, voilà. Et on lui pique ses sous parce qu'il gagne plus d'argent que nous, les salopards. J'ai rien dit.
Alors tout à l'heure, tu parlais de l'âge d'or. Est-ce que tu pourras nous parler un peu de l'âge d'or et de la différence entre les récits qu'il y a pu y avoir pendant l'âge d'or et ceux qu'on peut trouver maintenant ?
D'accord. Alors l'âge d'or, c'est quand j'avais 8 ans. C'est-à-dire, l'âge d'or, c'est ce que je lisais quand j'avais 8-10 ans. Et c'est une réponse qui est valable pour tout le monde, tu vois. Je pense qu'il y a des jeunes là qui vont me dire, qui dans 3-4 ans diront « L'âge d'or de la fantasy, à l'époque d'Harry Potter », ils vont dire ça, tu vois. Et ils auront tout à fait raison de dire ça, ça sera leur âge d'or à eux. Maintenant, même dans la science-fiction, même les historiens, là je fais le clown, même les historiens qui essaient d'être sérieux parlent de plusieurs âges d'or. Il y a l'âge d'or des années, fin des années 20, les années 30, où la science-fiction littéraire émerge. Il y a avec sa première esthétique, ses premiers illustrateurs. Il y a un âge d'or évident dans les années 50, dans la mesure où, ce que j'expliquais un peu tout à l'heure, la SF contamine un peu tout, s'exprime partout dans la société de toutes les manières possibles. Et puis, il y a des gens qui expliquent que l'âge d'or, c'est les années 60, quand les écrivains britanniques ont commencé à s'intéresser beaucoup plus aux sciences humaines qu'aux sciences de la technologie, qu'aux sciences dites exactes. Et puis il y a des gens qui disent non, finalement le vrai âge d'or c'est les années 80-90 avec des auteurs comme Greg Egan, enfin la littérature devient ceci, cela. C'est purement, je pense, c'est purement. Il y a quelques petites données objectives qui pourraient être quantifiées sous forme de volume de publication, de tirage des livres, d'influence sur. Pour répondre de manière vraiment constructive à ta question, si tu veux, faudrait que je fasse un assez long développement sur les rapports entre le réel et l'imaginaire. C'est-à-dire montrer que l'imaginaire se nourrit en permanence du réel et que le réel fait des efforts désespérés pour se rendre conforme au mythe et à l'imaginaire. Mais c'est pas le lieu, je pense, tu vois, pour faire ce genre de... Et là, on pourrait montrer qu'il y a effectivement des temps forts dans cette partie de ping-pong permanente. Il y a des grands temps forts et ça pourrait être ça, les âges d'or. Par exemple, au début des années 80, enfin, un peu après, je pense, enfin, Macintosh est un premier pas vers l'arrivée dans notre univers réel d'un objet de science-fiction. Powerbook, le premier Mac portable, c'est un objet de science-fiction qui est tombé dans le réel. Bon. Maintenant, c'est une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit parce qu'il me faut 2 heures pour expliquer ce que je veux dire. Alors, c'est pour ça que je préfère répondre par une boutade. Je dis ça juste pour les quelques adultes qui, au fond, c'est des choses dont on peut discuter par ailleurs. Et pour en revenir plutôt aux enfants qui sont notre public aujourd'hui principal, c'est pour ça que je préfère répondre que l'âge d'or, c'est quand j'avais 8 ans. Ça a l'air d'être une boutade, mais je pense que c'est une bonne réponse aussi.
C'est quelque chose d'important aussi.
Oui, oui.
C'est-à-dire que la littérature qu'on lit pendant toute notre enfance et toute notre adolescence va nous former, si
bien sûr,
toute notre vie.
Moi, j'ai la chance, j'ai grandi, enfin, j'ai la chance, non, je suis vieux, alors ça, c'est pas une chance, mais j'ai grandi dans les années 60 et dans une famille, toi, t'es plus vieux que moi, ouais, dans une famille où mon père lisait de la science-fiction, de la BD, ma mère lisait de la littérature, mes parents écoutaient du jazz, du rhythm and blues. Quand j'étais gosse, on m'amenait voir Johnny Hallyday, mais ma mère était abonnée aux fanzines que faisaient les admirateurs d'Otis Redding, par exemple, pour les gens qui connaissent un peu ça. Donc, j'ai grandi dans un milieu hyper culturel où tout était ouvert. Quand j'ai dit « Papa, je veux devenir musicien », il m'a dit « Ok, t'as qu'à monter un groupe avec les voisins, je vous emmènerai au concert et je vous aiderai à fabriquer les amplis ». J'avais, je sais pas, 12, 13 ans. Quand j'ai dit à ma mère « Maman, je veux devenir écrivain », elle m'a dit « Pas de problème, mon fils ». Ils m'ont pas répondu « Passe ton bac d'abord ». Donc moi, j'ai grandi dans cet univers-là. Ce qui fait que pour moi, l'âge d'or de la science-fiction, c'est effectivement quand j'avais 8, 9 ans et que dans la bibliothèque, il y avait des collections complètes du CLA, de fiction, des vieux galaxies, et toute cette science-fiction-là, les Heinlein, les Simac, les Sturgeon, après les Dick. Voilà, pour moi, l'âge d'or, c'est ça, mais c'est mon âge d'or à moi, tu vois. Et c'est certain que si j'avais pas grandi dans cet environnement à la fois culturel et complètement branquignol, mon père, c'est un type, quand il était jeune, il avait une espèce de grosse bagnole américaine avec des flancs en bois. Tu vois, puis dans les faux planchers, en dessous, il y avait des armes. Puis il partait avec ses potes traverser l'Afrique, tu vois. Et la nuit, il faisait le coup de feu contre les pillards dans le désert. Enfin, mon père, c'est un mec comme ça. Ma mère, c'est quelqu'un qui reste à la maison du matin au soir et du soir au matin, allongé sur une espèce de méridienne, à lire, livre sur livre, en buvant du café, tu vois. Donc j'ai grandi dans une espèce de milieu où le féminisme voulait dire quelque chose, où la culture voulait dire quelque chose, et où on était tous branquignoles, quoi, tu vois. Et maintenant, je suis là en train de vous raconter toutes ces bêtises, mais c'est la faute à mes parents, je m'excuse. On dit toujours, ouais, c'est l'hérédité, c'est le milieu, moi, c'est carrément les deux, quoi.
Et oui. Du coup, tu as voulu devenir musicien, tu as voulu devenir écrivain. Comment ça s'est passé après pour toi, puisque maintenant, tu as 60, 70 ouvrages publiés, il me semble. Ça fait quand même une masse assez considérable. Comment on commence et comment on continue dans cette voie-là?
Je ne peux pas faire autre chose. Depuis que je suis gamin, je fais que ça. J'ai toujours fait que ça. Je fais des bouquins, j'écris des histoires, j'écris des chansons, je fais des musiques de spectacle, de films, je refais des bouquins. Entre les deux, je vais faire zazen dans la montagne, je fais même ma petite demi-heure ou ma petite heure, ou des fois mes deux petites heures de méditation tous les matins, je m'occupe de mon jardin, je parle à mes bestioles, je fais cuire mon pain, je fais aussi d'autres trucs si tu veux. Mais j'ai une vie extrêmement simple. J'ai fait un choix de vie qui implique d'être assez costaud psychologiquement, parce que c'est en permanence, tu sais pas trop si tu vas gagner ta vie, enfin, c'est pas facile quoi, hein, rien n'est jamais. Donc il y a un prix à payer qui est une espèce d'insécurité financière et psychologique. Je m'en fous, je trouve que c'est pas un prix très cher par rapport à la manière avec laquelle je vis. Donc moi je me plains jamais, hein, même quand je reste, je perds mes éditeurs, des fois je reste très longtemps sans écrire, là c'est le cas, ça fait plusieurs années que j'ai rien publié. Mais je suis tellement content, le matin je me lève, je suis en vie, putain, c'est une journée de plus à faire ce qui m'intéresse, tu vois, c'est vraiment pas... Mais ça c'est moi qui fonctionne comme ça, tu vois, c'est... Quand j'étais gamin, j'ai grandi dans un milieu où on m'a fait confiance et où on m'a encouragé plutôt que me casser aussi, tu vois. Donc quand t'es adulte, bah, c'est plus simple.
et la relation du coup... Toute cette connaissance du milieu et de la littérature de SF, est-ce que elle te permet toujours de puiser dans de nouvelles histoires, ou à un moment tu te dis je vais jamais réussir à trouver quelque chose de neuf?
Oh non, ça, je suis d'une arrogance assez extraordinaire, hein. C'est-à-dire qu'à la fois je m'efforce de pas trop m'occuper de mon ego, d'essayer de prendre conscience que c'est une pure illusion. Enfin, je suis dans une démarche philosophique qui quelque part se promène entre le taoïsme et le bouddhisme, et je me sens très bien comme ça, hein. Ce qui fait que je suis un mec à la fois rigolo, gentil et tout, tu vois, très, très fréquentable. Puis en même temps, bah, j'ai quand même un ego, puis j'ai quand même cette espèce de... qu'ont tous les artistes, d'arrogance de penser que ce qu'on a à dire est intéressant, et que donc il faut qu'on le dise et que des gens vont trouver ça intéressant. Alors si tu veux, moi, j'ai pas trop de problème, parce que ce que je dis effectivement est intéressant. Tu vois, mais je veux dire, c'est pas gagné d'avance, quoi. Ça me rappelle, tu connais, c'était un copain, Michel Jury, qui était un grand écrivain de science-fiction, un écrivain tout court, qui racontait tout le temps dans les conventions, on se marrait chaque fois qu'il nous le racontait. Il nous le racontait tout le temps, mais on se marrait quand même tout le temps. Il disait dans la science-fiction, la moitié des gens sont complètement mégalos, et l'autre, c'est des vrais parano. Et il ajoutait, moi, mon problème personnel, c'est que personne ne m'aime parce que je suis le meilleur. Ça nous est bien rigolé. Puis après, une fois qu'on avait fini de rigoler, il ajoutait, évidemment, dans mon cas, quand c'est moi qui la raconte, elle n'est pas très drôle parce que je suis effectivement le meilleur. et en même temps, c'est un mec hyper gentil qui a le cœur sur la main, tu vois. Donc on peut jouer assez facilement à faire croire qu'on est un monstre, d'autant plus facilement si on n'en est pas un, quoi, tu vois.
Mais oui, oui.
Mais moi, je suis un monstre.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Ouais, il fait peur, lui. Non, pas lui, il fait peur. Tu prends le micro.
Il y a un micro qui va arriver.
Oups.
Oui, juste une petite question. Le chapelet, c'est revendicatif?
Ah, c'est... oui, c'est un mala. C'est un chapelet, ça vient du Népal, c'est un chapelet tibétain, mais je ne suis pas de la mouvance bouddhisme tibétain du tout. Alors c'est pas revendicatif, je veux bien parler de ça un tout petit peu. Ça me rappelle que il y a quelques jours j'étais chez moi et que je vais bientôt y retourner, parce que ça me fait très plaisir d'être là. Hein, ça fait 6 ans que j'avais pas mis les pieds ici. Donc, et que j'avais été aucun endroit en rapport avec la science-fiction, les salons du livre, la littérature. J'ai complètement pris mes distances, disons. Je faisais plus que de la musique ces derniers temps. Et donc je suis content d'être là. Mais en même temps, je suis très bien chez moi. Et je me suis redéployé, si on peut dire, à la campagne, dans un milieu. Alors c'est plus que la campagne, c'est le trou du cul du monde, hein, carrément. Où j'ai construit une maison en bois et où j'ai... restauré partiellement une partie du vieux château familial en ruine dans lequel je vis. Et depuis pas mal d'années, je mène ma réflexion sur... j'essaie de réfléchir en quoi les philosophies orientales, qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter pour qu'on s'achemine moins vite vers le grand bordel vers lequel on s'achemine, nous les Occidentaux. Donc ça passe par un travail sur le bouddhisme, entre autres, et sur la fréquentation assidue de ce monde-là. Et c'est mon monde aussi. Hein. Je suis bouddhiste depuis que je suis... Enfin, quand j'étais ado, quand j'avais 17-18 ans, un jour j'ai lu un livre, j'ai découvert le mot bouddhisme, je me suis dit « Ah bah tiens, t'es ça !» Ce que j'ignorais. Et ensuite, j'ai pris mes distances assez nettement avec ce milieu-là parce que je vivais en Occident, j'étais musicien de rock et je vivais une vie de banque, quoi.
Il y a 50 000 écoles bouddhiques, lesquelles fait votre choix et par rapport à quoi ?
Il y a 50 000 écoles bouddhiques ?
Oui, c'est entre le zen, le...
Oh, il n'y en a pas 50 000, mais...
aussi les facteurs différents.
Et quelques-unes. Bah, si tu veux, il y a la... Bon, ça ne vous intéresse pas qu'on parle de ça ?
Si, parce que ça a quand même un lien avec votre écrit de la science-fiction, non ?
Ah bah, c'est un lien avec ce que j'écris, je pense, oui. En tout cas, mes préfaciers le font parfois remarquer, donc ça doit être... Non, mais je ne sais pas si c'est le lieu. Enfin, je veux dire...
Pardon.
Enfin, non, c'est pas que je veux pas de réponse, si tu veux. Ce matin, bon, je peux faire une assez brève parenthèse, puis en fait, ça sera la fin, je pense. Ce matin, quand je me suis levé, je suis descendu à l'hôtel à prendre mon petit déj, et puis j'ai eu une perte de temps, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment, je suis resté scotché comme ça. Ça m'arrive assez souvent parce que les toubibs disent que c'est des brefs épisodes d'épilepsie, enfin des machins comme ça. Donc tout d'un coup, j'arrête, je me mets en pause, puis je redémarre après. Et en fait, pendant ces pertes de temps, je vais de l'autre côté du monde. Alors, je ne veux pas développer, parce que ça sera un peu trop long. Et je vais de l'autre côté du monde y chercher des informations. C'est-à-dire, je vais piocher dans l'inconscient collectif. Moi, j'appelle ça comme ça. Je reviens avec des infos. Et là, ce matin, ça m'a fait ça pendant que je prenais mon petit-déj. En principe, ça ne me le fait pas, parce que je prends mon petit-déj en étant en pleine conscience sur ce que je fais. Je prends mon petit-déj, je pense, à la limite, je suis dans un état de remercier le soleil, la pluie, la terre d'avoir fait pousser tout ça, les jardiniers de l'avoir ramassé, le cuistot de l'avoir cuisiné, le mec d'avoir fabriqué le bol. Enfin, je suis dans cette espèce de, tu vois, de conscience. Et là, comme il y avait du monde autour de moi, et puis qu'on est dans une ambiance un peu, tu vois, il y a potes et tout, moi je vis tout seul, hein, au fin fond de mon... Ici, c'est sûr, ça me fait pas pareil. Du coup, j'ai eu ce pof, j'ai disjoncté. Et j'étais dans cet état de pas être à ce que je faisais, parce que j'étais un peu stressé. Pas pour le fait que j'allais rencontrer ici les gens, mais par le fait que je suis là depuis 3 jours et que j'ai déjà fait 2 rencontres comme ça, j'ai fait 3 tables rondes, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur raconter ? Il n'y aura personne, ou alors ils vont me reposer les mêmes questions, ça ne va pas être marrant et tout. Et à ce moment-là, j'ai disjoncté, et je me suis retrouvé, alors, vous allez me prendre pour un cintré, je me suis retrouvé à discuter avec mon chat qui est mort il y a 15 jours, et qui est donc et pas encore, sa parcelle de conscience n'est pas encore réintégrée parce qu'il est toujours de l'autre côté. Et il m'a dit, mais non, mais t'inquiète pas, tu vas trouver un truc. Et je suis parti donc rassuré en me disant que j'allais trouver un truc. Je suis arrivé là, j'ai vu mes potes, qui étaient assis, j'étais boire un café avec eux, je sais pas si t'étais là. Il y avait Pierre-Paul Durastanti, les gens de Bifrost dont on parlait tout à l'heure et tout. Et tout d'un coup, je me suis entendu dire, ça m'est venu comme ça, je me suis entendu dire dans ma tête, et cette fois, vous allez me trouver encore plus barjot, c'est mon animal totem qui avait pris la parole. Qui est un vieil ours qui claudique comme ça et qui m'apparaît dans mes rêves pour m'expliquer, me prendre la main, aller me faire voir des choses et m'expliquer ce que je comprends pas toujours. Et je me suis entendu dire, mais t'as qu'à faire, plutôt qu'attendre des questions, t'as qu'à te lancer, faire un truc, et t'as qu'à leur exposer ta vision cosmogonique entre Philippe Dick et le Tao, comme ça sera quand même de l'ASF. Et à partir de là, quand tu vas pouvoir introduire cette notion de la vie qui est une propriété émergente de la matière, arrive à un stade suffisamment complexe, et ensuite de la conscience qui est pas une émergence de la vie, mais qui est plutôt qui se manifeste quand la vie devient suffisamment consciente, enfin complexe, tu pourras leur expliquer ce que c'est que l'inconscient collectif, la conscience de l'univers, et tu pourras leur expliquer comment pour toi, on est là, on est la conscience de l'univers en train de s'éveiller. Donc je me suis dit, je vais parler de ça, et du coup ça va me permettre de coller à la SF en expliquant pourquoi. La science-fiction, pour moi, est une interface symbolique entre chacun de nous et entre ce que j'appelle l'inconscient collectif, qui est le lieu où réside la totalité de la connaissance, la totalité de la conscience. Voilà, je voulais parler de ça, en fait. Hein. Ça a l'air compliqué comme ça, mais je vous assure que je l'aurais fait de manière simple et ça aurait pu être intéressant. Et puis, juste en arrivant, là, j'ai vu qu'il y avait tous les petits hauts qui arrivaient, qui étaient là. Je pensais que ce serait que des adultes. Et puis, toi, tu es venu, tu m'as dit, évidemment, cette fois-ci, il y a un modérateur, alors que jusqu'à présent, on m'a laissé me débrouiller tout seul, ce qui me va très bien, c'est pas un souci. Et du coup, j'ai pas parlé de ça. Voilà. Mais finalement, j'ai réussi à dire 3 bêtises quand même à la fin. Mais c'est pas des bêtises. Enfin, je veux dire, c'est pour moi, c'est pas des bêtises, quoi. Je pense vraiment qu'on chacun de nous a une parcelle de conscience en lui et qu'on est là pour essayer d'en éveiller le plus possible et que quand notre corps disparaît, cette parcelle remonte dans le grand tout de la conscience de l'univers. Tout ce qui s'éveille peu à peu est mis de côté et tout ce qui reste à éveiller revient, renaît sans arrêt jusqu'à ce qu'on ait fait le tour. Ce qui est intéressant, c'est quand la totalité de la conscience de l'univers sera éveillée. Là, je ne sais pas ce qui se passera. Et donc, la bonne nouvelle quand même, c'est que mon chat n'est pas encore revenu. Mais il ne devrait pas tarder.
Eh bien,
c'est bon.
Ouais. Merci à tous.
Merci.